Nous commençons par la prière. Seigneur, c'est par notre prière que nous t'implorons que tu puisses venir à notre aide. Tu nous as donné la voix, les mots, mais on aurait pu te prier autrement. Par le désir de notre cœur, parce que ta parole dit que l'Esprit sonde ce que nous avons dans le cœur. Et souvent, les mots ne représentent pas, n'expriment pas ce que notre être intérieur souhaite que nous exprimons. Mais Seigneur, que tu puisses écouter notre cœur, notre être intérieur, au-delà des mots, au-delà des pensées ou des gestes. Seigneur, que tout soit en harmonie avec toi. Je te prie d'utiliser ces mots, de permettre ces mots que nous allons partager, qui puissent nous nourrir. Pas les mots en eux-mêmes, mais la réalité, ce qui se cache derrière, que toi seul peux mettre dans notre cœur. Que tout soit assimilé, reçu dans l'esprit. Et si dans ta bienveillance, dans ta volonté, tu veux que ça atteigne notre tête, eh bien que ce soit ainsi. Bien que le fondement, c'est que ce soit notre cœur qui soit touché, nourri, au-delà du comprendre. À toi la gloire et la louange pour les siècles des siècles. Amen. Alors, dans la continuité de ce que nous avons partagé ce matin, nous revenons toujours à notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vais partager avec vous une expression qu'on utilise, voilà, depuis des siècles, actuellement. Et on a tellement réduit qu'on la limite à des choses visibles, extraordinaires, que nous utilisons même comme un instrument pour témoigner, etc. En fait, c'est un verbe, c'est le verbe guérir. On en a fait, la guérison miraculeuse, etc. Et c'est vrai qu'à chaque fois quand on parle avec un chrétien, c'est ce que j'appelle du formatage spirituel. Vous savez, que dans le milieu chrétien, on est formaté, on utilise des expressions. Hein. Et des expressions qui sortent tout le temps. Hein. Le Alléluia, alors là, voilà, il faut le sortir, ça, Alléluia. Hein, donc, Dieu est grand, Dieu d'amour, tu aimes, etc. Voilà, c'est des expressions. Mais qu'est-ce que cachent ces expressions qu'on utilise? Et souvent, on les a réduits, c'est que ça devient, en fait, c'est vidé de sa substance, le mot guérir. En fait, guérir, c'est je suis malade, je suis guéri. J'ai un problème, je suis guéri. Bon, voilà. Alors, quand on cherche dans la parole de Dieu, ce mot hébreu qu'on a traduit par le mot guérir, je ne sais pas si on lui a rendu service en disant guérir. Parce qu'il voulait dire plus que ça. Et on sort le verset connu, hein, donc je l'ai lu ce matin, justement, pour vous préparer pour le message. Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et on le sort dans toutes les églises, charismatiques ou pas. Guéris, c'est le corps qui guérit. Mais je vais vous dire tout de suite, par le titre, vous allez comprendre ce que ça veut dire guérir. Je vous donne tout de suite le titre, comme ça, vous n'en pouvez pas attendre. En Jésus-Christ, une remise en mouvement. Voilà la traduction hébraïque du mot guérir. Remise en mouvement. Quelque chose qui ne bouge pas. Hop, d'un seul coup, il se met à bouger. C'est ça le sens des miracles, par exemple du paralytique dans le Nouveau Testament. Quand le Seigneur guérit le paralytique, il est en train de nous dire, parce qu'on peut expliquer par les mots, mais comme je vous l'ai dit, on peut expliquer aussi par des faits. Mais en guérissant le paralytique, il est en train de nous dire, vous êtes comme le paralytique, mais en moi, vous êtes remis en mouvement. Prends ton lit et marche. Vous voyez, c'est ça le sens de guérir. L'homme est enchaîné dans sa logique aliénée. Oui, nous pouvons le dire. Nous sommes tous esclaves de ce que nous apprenons tous les jours. Nous sommes tous esclaves de notre éducation. Nous sommes tous esclaves de notre contexte. Et c'est naturel, je ne suis pas en train de reprocher. C'est un constat que je fais. Je suis esclave de mon milieu duquel je viens. Ma culture orientale, maghrébine, mon éducation a fait ce que je suis devant vous. Le fait de dire « je suis esclave de », c'est pour dire « dépendant de ». Mais je ne vais pas venir devant vous pour vous dire que ma vérité, c'est la vérité, vous devez être comme moi. Non, chacun est esclave de sa façon de penser, de son milieu, etc. Y compris la logique. Notre logique issue de la conséquence des siècles de lumière, nous voulons la propager, le mettre à le monde entier. Alors, je suis en train de dire aux Chinois, tu dois penser comme moi la logique occidentale. Et je suis convaincu que c'est la vérité. Non, les Chinois ont une autre logique. L'oriental a une autre logique. L'Africain a une autre logique. Chacun sa logique, mais il n'y a pas une logique. Mais ce n'est pas par cette logique-là que nous devons imposer le Seigneur. Souvent, les missionnaires, et Dieu les utilise, grâce à eux, la parole de Dieu est propagée. Mais certaines missions, et surtout à la conquête de l'Amérique, ils ont imposé une logique. Ils étaient convaincus que la leur est bonne. Mais ils étaient convaincus qu'ils parlaient de l'Évangile. Alors ils imposaient une logique. Et ça fait des dégâts. L'homme est enchaîné dans sa logique aliénée. Nous devons être au clair avec cela. Chacun de nous a sa façon de penser. Mais certes, nous baignons, parce qu'une partie de moi, je viens d'Afrique, mais vous baignez dans une logique occidentale. Mais il ne faut pas dire que c'est la logique qui doit être propagée dans le monde. Au mieux, c'est de l'égoïsme. Au pire, ça peut être carrément de l'esclavagisme, d'imposer ses idées à l'autre. L'homme croit connaître la réalité. Ah oui. Pouvoir trouver son bonheur et écarter tout ce qui peut causer son malheur. Et pourtant, l'homme, la Bible nous dit, est aliéné. Tout le monde. Là, au moins, on a le point commun ensemble, c'est que nous sommes tous aliénés à l'origine. Malades. Spirituels. Nous sommes dans un immobilisme moral dû à un immobilisme spirituel. Regardez le monde et on sera tous d'accord pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il croit se connaître et pourtant il n'est qu'une ébauche. La Bible nous dit nous ne sommes qu'une ébauche. En fait, en tel que nous nous voyons, nous sommes des brouillons. Voilà ce que dit la Bible dans la pensée hébraïque. Nous sommes des brouillons. La réalité, c'est Christ. Nous sommes des brouillons. Tant qu'on n'a pas atteint Christ, nous restons débrouillons. Car notre véritable identité est en celui qui est l'original, qui est la véritable image de Dieu, Jésus-Christ. L'homme est destiné à se métamorphoser et en revêtant sa pour revêtir sa réalité spirituelle. L'homme, homme et femme, n'atteint sa plénitude ou sa complétude complète n'atteint sa réalité que quand il rencontre son Créateur en Christ. En dehors, il demeure brouillon, bué. L'Ecclésiaste l'appelle vanité. Tout être humain est destiné, il est créé dès l'origine pour arriver à cet objectif. Rencontrer son Créateur en Christ. Où est-ce qu'il est l'endroit où Dieu est venu à la rencontre, à notre rencontre, à ce endroit où il est venu à la rencontre, la croix. C'est à la croix qu'il est venu nous rencontrer. L'homme est appelé à revêtir la stature du Seigneur Jésus-Christ, où l'esprit contrôle la nature humaine. Si on n'est pas de cet état-là, nous sommes des animaux dans le sens animé. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Ce que je suis en train de vous dire est annoncé depuis la Genèse. C'est un plan qui est annoncé, il n'y a rien de secret. C'est annoncé, mais c'est vrai qu'il a fallu attendre le Nouveau Testament pour que l'Esprit nous éclaire, parce qu'on ne savait pas ce que ça veut dire ces versets-là. L'homme est créé à l'image de Dieu. Mais les exégètes disent, mais ça veut dire quoi ça, l'homme de Dieu? On ne peut pas être. Mais justement, on ne peut pas l'être. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui le fasse à notre place pour nous ramener à cette image de Dieu. Dès la Genèse, ce plan en devenir est annoncé. C'est-à-dire l'objectif est de revêtir Christ, qui est l'image de Dieu. Voilà pourquoi l'être humain est créé. Je vous invite à lire Genèse 1, 27. Hein, pour Je vais paraphraser. L'homme est créé à la femme. Il est créé à l'image de Dieu. Dieu crée l'homme et la femme. Et en plus, pour insister, il ajoute l'homme et la femme. Si au cas où il y en a qui trafiquent cette parole, ils mettent le H en minuscule. Vous voyez? Non. L'homme et la femme. La femme et l'homme, tout le monde, nous sommes destinés à revêtir l'image de Dieu. C'est dans la Genèse 1,27. C'est déjà annoncé. Et il a fallu attendre le Nouveau Testament pour voir, mais c'est quoi cette image de Dieu? Et je vous invite à lire Colossiens chapitre 1, verset 15, où il est dit, la véritable image de Dieu, c'est Jésus-Christ. Vous voyez, voilà le plan, il est là. L'homme et la femme sont créés pour devenir à l'image de Dieu, c'est-à-dire rencontrer leur Créateur dans une communion spirituelle. Mais ça se fait comment? Parce qu'on se pose la question, mais ce n'est pas possible, je ne peux pas le faire. Le Nouveau Testament donne la réponse, c'est Christ, notre devenir. Si l'être humain ne reçoit pas Christ, il devient un brouillon, il n'a pas atteint sa réalité. Ce devenir, cette transformation est possible grâce à l'œuvre accomplie à la croix par le Seigneur Jésus-Christ. Et toute religion, tout mouvement qui remet en question cette croix, qui remet cette question, il remet tout. Il n'y a plus de point commun. Et suivez mon regard, je suis en train de me référer aux rencontres œcuméniques. Mettons de côté ce qui nous distingue. Mettons de côté la croix. On peut parler de tout. On ne peut pas parler, puisque le fondement, on l'enlève. Donc on peut parler d'une discussion enrichissante intellectuellement, philosophiquement, mais on ne peut pas dire qu'on est dans une union spirituelle, puisque le fondement est enlevé. Vous voyez, on est dans l'amour de l'autre, mais ça n'empêche pas de dire, mettre les points sur les i en disant, non, si nous nous rencontrons, nous pouvons nous enrichir mutuellement. Je suis pour aller découvrir, je suis de nature curieuse, on peut m'inviter chez les bouddhistes, tout ce que vous voulez, le bouddhisme, les musulmans, les juifs, tout ça, par curiosité intellectuelle. Et le Seigneur nous appelle à être curieux. Comme ça, au moins, quand je parle avec quelqu'un, je sais de quoi je parle. Ceux qui vous interdisent d'aller dans des réunions comme ça, encore une fois, c'est du n'importe quoi. Nous sommes dans une société où nous devons apprendre. Ça ne veut pas dire que j'adhère à ce qu'ils font. Et d'ailleurs, quel endroit on peut témoigner de notre foi, si ce n'est dans les endroits qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus? Ce devenir, cette transformation est possible grâce à l'œuvre accomplie à la croix par le Seigneur Jésus-Christ, qui a versé son sang pour nous ouvrir la porte de la réconciliation avec le Créateur. C'est une œuvre libératrice qui remet l'homme intérieur en mouvement, vers une véritable guérison, c'est-à-dire une mort et une résurrection intérieure. Permanente. Le mot hébreu utilisé pour dire guérir, c'est rapha. Vous pouvez effectuer des recherches sur Internet. Le verbe rapha, c'est un verbe hébreu. C'est un mot qui veut dire à la fois guérir, soigner, raffermir, consolider, libérer, pardonner, rétablir, assainir, rendre salubre, réparer, devenir saint et aussi affliger et réduire. Tout ça, c'est le verbe rapha. Et on l'a réduit, mot guérir. Voilà. Et tout le monde croit ça, mot guérir. Voilà. Ça veut dire guérir. Bon. Ce mot rapha est utilisé plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Comme dans le livre de l'Exode, par exemple. Dans le livre de l'Exode, je vous lis. Exode 15, verset 26. Dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Enfin, ils étaient tous malades. Non, mais je guérirai son pays. Donc, enfin, ils doivent tous avoir le coronavirus, là, je ne sais pas quoi, là. Mais non, parce que c'est un mot on a réduit à guérison, alors que ça veut dire autre chose. La guérison divine est une réanimation et une remise en mouvement. C'est le sens du mot « rapha » évoqué dans la Nouvelle Alliance par le Seigneur lui-même, dans Luc, chapitre 4, verset 18. Voilà ce que dit le Seigneur. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Le Seigneur lui-même qui a dit ça. La guérison divine est une naissance d'une nouvelle nature. C'est une naissance qui se place dans le plan de Dieu sous l'autorité de l'Esprit. C'est ce que j'appelle métamorphose. Cette œuvre invisible à l'œil nu, à l'œil humain, est largement développée par les apôtres à travers leurs écrits, comme l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 2, versets 21 à 25, où il se fait l'interprète d'un passage célèbre du livre d'Ésaïe que j'ai lu ce matin. Voilà, 1 Pierre 2, versets 21 à 25. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il n'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, sur la croix, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Voilà le mot guéri. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retourné vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Ce passage fait écho à la prophétie reçue par Ésaïe dans Ésaïe chapitre 53, versets 3 à 6, qui préfigure les souffrances du Seigneur Jésus-Christ et son œuvre salvatrice de l'humanité déchue. Où il est question, c'est par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Comme nous l'avons évoqué, l'expression « Rapha » ne se limite pas à une guérison physique. Ça ne veut pas dire qu'il faut remettre en question les guérisons miraculeuses. Je ne suis pas en train de vous dire, je le crois. Je sais que le Seigneur peut accomplit des miracles hier, aujourd'hui et demain. Ça, nous le croyons. Remettre en cela, c'est encore une fois une erreur terrible. C'est oui, on passe d'un extrême à l'autre. Il n'y a que les véridiques, après il y en a, ça ne se fait plus. Non, la parole de Dieu, si, ça se fait hier, aujourd'hui et demain. Mais seulement, il ne faut pas réduire les œuvres du Seigneur à des interprétations personnelles. Le verbe rapha ne se limite pas à une guérison physique et son sens dépasse la notion de guérison, telle que nous la concevons. Ce mot fait référence à une remise en mouvement, intérieur. Cette remise en mouvement est présente de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, si vous prenez l'histoire du peuple hébreu, que ce soit même le Seigneur avec ses miracles. Ce message est présent tout le temps. L'objectif, le souci de notre Créateur, c'est de nous sortir de notre immobilisme, notre mort à nous-mêmes, pour nous remettre en mouvement vers le ciel. C'est ça le message de guérir. En arabe, c'est, vous savez, l'arabe est cousin, une langue cousine de l'hébreu, le mot rapha veut dire aussi élevé et porté haut. Voilà la remise en mouvement. Nous sommes remis en mouvement vers le ciel en vivant dans l'esprit. Le corps, il peut être guéri, mais il disparaîtra. Je peux être ravi, heureux que je vive un miracle dans ma vie, mais un jour, c'est comme un jour, c'est comme mille ans comme un jour. Ce corps, même s'il est guéri miraculeusement, il disparaîtra quand même. D'accord ? Et dans quelques années, enfin, si les siècles passent, on n'en parlera plus de ça. Mais la guérison intérieure, cette remise en mouvement spirituel, c'est celle-là où il s'agit. L'homme est perdu, désorienté et en perpétuelle recherche d'une direction. Il suffit de regarder le monde, on a évoqué ce matin, dans lequel nous vivons, pour voir à quel point l'humanité est désorientée. L'homme tourne en rond. Il cherche de se sortir du marasme qu'il se crée lui-même. C'est terrible quand même. Il crée des problèmes et il dit « moi je peux les résoudre ». Un cercle vicieux, un serpent qui se mord la queue. L'homme croit et vit un mensonge qui lui fait croire qu'il est capable de résoudre les maux qu'il crée lui-même. Il s'auto-détruit à petit feu en s'érigeant en un dieu, un dé minuscule, sauveur de ses propres maux, M-A-U-X. Il succombe au mensonge de l'accusateur, du roi du mensonge, le Satan, Il n'y a rien de nouveau. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Il succombe au mensonge de l'accusateur, du roi des menteurs, le Satan, qui lui fait croire qu'il peut devenir comme un dieu, le créateur. Il peut connaître le bien et le mal, et il peut résoudre les problèmes dans lesquels il vit et il crée lui-même. D'ailleurs, je vous invite à lire Genèse chapitre 3, verset 5, où il s'adresse à Adam et Ève, et il leur dit « Non, 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 c'est pas vrai, ce qu'il vous... n'obéissez pas, parce que si vous mangez de ce fruit, vous serez comme des dieux. » C'est exactement ce que vit le monde depuis des siècles. Il n'y a rien de nouveau, mais c'est de pire en pire. C'est-à-dire, vous voyez, même dans pire en pire, il faut se réjouir, ça veut dire que les choses s'accélèrent. Vous voyez ? C'est le retour du Seigneur. Plus on avance, plus il s'approche. Donc, vous voyez, même le côté négatif, ça doit nous réjouir de l'autre côté. Mais en réalité, l'homme est incapable de s'orienter seul. Il a besoin d'être remis en mouvement. Même une boussole ne lui suffit pas. Que j'appelle boussole. Oui, j'utilise le mot boussole, mais c'était pour vous dire, même les lois, c'est une boussole en fait, pour l'homme, pour servir son créateur. Même les lois saintes, écrites dans la Bible, ne lui suffit pas pour se mettre en règle vis-à-vis de son Dieu. Parce que cette boussole, elle est portée par un humain. Donc cette boussole, elle devient humaine. L'homme est incapable de l'utiliser. Car il n'en a pas les moyens. Même si le Seigneur lui donne la boussole, il dit « Vas-y, maintenant tu peux me servir. » Humainement, comme il est déchu, il ne peut pas utiliser la boussole. Il a besoin d'une nature spirituelle qui reconnaît la boussole spirituelle. L'humain ne reconnaît pas la boussole. Il va mal l'utiliser, il ne va rien comprendre. D'ailleurs, il n'est même pas assez saint pour la porter, cette boussole. La boussole, elle est sainte. Comment voulez-vous, nous, que nous sommes déchus, jugés, rejetés d'Éden, on porte cette boussole? Mais c'est une, presque, j'allais dire, une malédiction. Humainement parlant, comment je ne suis incapable de la tenir. D'ailleurs, rappelez-vous, dans le temple, on n'avait pas le droit de rentrer dans le lieu très saint. Parce qu'on était considéré comme, il y avait un jugement sur nous. On était déchus, on ne peut pas rentrer. D'ailleurs, si on rentre, on ne survivrait pas. Et même le grand prêtre, ou la scribe, quand il rentrait dans ce lieu très saint, il fallait qu'il se purifie, il fallait qu'il fasse plein de rituels que Dieu a imposés à la lettre et qu'il puisse rentrer une fois par an. Et en plus, on l'attachait à une corde au cas où il lui arrive quoi que ce soit pour qu'on le tire. On n'ose même pas aller le chercher. Et nous, on dit, par ma nature humaine, je peux obéir aux lois de Dieu. Mais c'est exactement la même chose. Alors l'homme, l'être humain, se crée ses propres lois pour servir Dieu. Alors il crée sa morale. Alors là, la morale, il crée des mesures, des règles. Et d'ailleurs, chacun a sa morale. Chacun a ses règles. Il y a la morale républicaine aussi. Il y a la morale, je ne sais pas moi, africaine, maghrébine, marocaine, tout ce qu'on veut. Ça diffère d'une civilisation à une autre. Je vous défie d'aller assister à un culte au fin fond de l'Afrique. Voir comment ça se passe, vous allez être choqués, mes frères et sœurs. Vous allez dire quoi? Chez nous, c'est pas comme ça. Nous, on a le respect, on a la tenue, voilà. Et on arrive avec sa morale. Non, c'est différent. Mais on ne peut pas juger par sa morale. Ça diffère d'une civilisation à une autre, d'une société à une autre, d'un pays à un autre, d'un régime à un autre, d'un individu à un autre, de toi et de moi. En fait, chacun des êtres humains a besoin d'être libéré de lui-même. Voilà, on arrive à ça. Nous avons besoin d'être libérés, mes frères et sœurs. On arrêtera de juger les autres, parce que... L'être humain a besoin d'une métamorphose complète et progressive. Il a besoin d'une nouvelle nature libérée de la sienne, d'une racine et d'une origine complètement différentes. Il a besoin d'une nouvelle naissance qui le remet enfin en mouvement. Nous avons besoin de Christ en nous, le seul qui peut nous remettre en mouvement. Il nous sort de notre cercle vicieux en nous aidant à cheminer vers notre devenir, rencontrer notre Créateur pour l'éternité. Et ça commence ici-bas. Pas attendre après la mort, non, ici-bas, ça commence ici, par la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance, cette métamorphose, est une succession de séparations. Voilà, porter sa croix. C'est une succession de séparations et d'accouchements. C'est pour ça le sens de l'accouchement chez les mamans. En fait, c'est quelque chose que visible, mais c'est un enseignement spirituel pour nous. C'est pour ça que je dis que tout ce que nous voyons a une dimension, un enseignement spirituel. C'est un accouchement à la fois douloureux et joyeux en même temps parce qu'il donne la vie. Une transformation qui aboutit simultanément à une libération intérieure, une libération active et vivante, à une métamorphose progressive, à travers des accélérateurs à double tranchant. Ce sont les épreuves. C'est un accélérateur. Je dis bien les épreuves subies et non les épreuves recherchées. C'est parce que je souffre en mettant ma main sur le feu que je la retire. Si je ne souffre pas, ma main se consumerait. Vous voyez ? Pour protéger ma main, ben j'ai besoin de la souffrance. Pour sauter, il vaut mieux des fois reculer pour prendre de l'élan. On dit, mais foncez. Mais non, des fois, le Seigneur nous dit, arrêtez-vous, stop, ou reculez. Je me permets que vous reculiez. Parce que vous allez tellement expérimenter par conviction fond de même quelque chose que j'ai envie que vous expérimentiez, que vous allez devancer, vous allez sauter. Pour sauter, il vaut mieux des fois reculer. Il faut des joies et des peines. Il faut être soigné et affligé à travers les épreuves. Il faut être guéri tout en réduisant nos capacités. L'exemple de l'apôtre Paul, Échard qui l'accompagne toute sa vie. Pour avancer, il faut se relever. Et qui dit se relever, c'est qu'il y a épreuve ou chute avant. Donc ça fait partie du processus. Pour avoir de l'électricité, je ne suis pas scientifique dans ce domaine, mais il faut le moins et le plus. Mais sinon, il n'y a pas le courant. Pour s'enrichir en Jésus-Christ, il faut réaliser sa misère spirituelle. C'est tout cela, une remise en mouvement. C'est tout cela, guérir. Cette remise en mouvement, que j'appelle recto verso, parce qu'il faut les deux, d'ailleurs même une journée, je dis toujours l'exemple, une journée composée de nuit et de jour. On ne dit pas une journée, c'est seulement le jour, quoique ça dépend comment on est. Mais 24 heures, c'est composé de beaucoup de choses. Et c'est tout cet ensemble qui fait que la journée existe. C'est une dualité inhérente à la création. Cette dualité, il est dès le premier verset de la Bible. Il est commencé par la lettre bête, le livre 2. Enfin, par la lettre 2, c'est-à-dire dualité. Dès le départ, Dieu a créé le ciel et la terre. Dualité. Dès le départ, Dieu a créé l'homme et la femme. Et ainsi de suite. Dualité. Toujours deux courant contre courant, ensemble et en avance. C'est pour ça l'homme quittera sa femme. Et là, les deux font une seule chair. Cette réalité, cette remise en mouvement est clairement explicitée par le Seigneur dans ses béatitudes, dans Matthieu 5, versets 3 à 6. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils sont consolés. Presque il dit c'est bien. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Oui, je vous invite à lire les béatitudes. À travers le Seigneur, l'homme est remis en mouvement. Sa libération de lui-même est amorcée vers un parachèvement spirituel, comme nous le déclare un des passages des Actes des Apôtres, Actes 17, verset 28. Car en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Voilà ce qui est annoncé dans les Actes des Apôtres. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Car en lui, nous avons la vie. Notre réalité, c'est la nouvelle naissance, voilà, la vie, la véritable vie. Le mouvement, c'est le cheminement, c'est la remise en mouvement. Et l'être, c'est notre réalité, c'est Christ. Voilà, en trois mots, nous avons déjà le plan de Dieu depuis la Genèse à l'Apocalypse. Nous retrouvons dans les Actes des Apôtres. La connaissance divine s'expérimente à travers une communion progressive avec Dieu, sur la croix. Car c'est là et uniquement là que Dieu rencontre l'humanité en son Fils, Jésus-Christ. Donc la croix est un fait historique d'une réalité infinie. Ailleurs, l'homme n'acquiert, si on peut vivre sa foi chrétienne, mais l'être humain n'acquiert qu'un savoir, qu'une morale, qu'une instruction qui fixe des objectifs humains qui ne pourront jamais plaire à Dieu, je dirais même pas plaire à Dieu. J'enlève le mot plaire. Vous savez pourquoi ? En fait, Dieu ne les reconnaît même pas. Donc je ne peux même pas dire plaire à Dieu. Il les reconnaît. Pour lui, ça n'existe pas. Il ne regarde que ce qui vient de lui. Elles n'ont pas la même source. La communion avec le Seigneur grandit dans le dépouillement de l'homme qui consiste à briser, démolir et démanteler ce qui est à la fois bon et mauvais en nous. Tout ce qui n'a pas comme source, comme origine, comme commencement, Dieu est destiné à être brisé. Même les meilleures choses que nous pouvons avoir. La croix du Seigneur, qui n'est pas uniquement un symbole historique, mais surtout spirituel, nous invite à y pénétrer afin de commencer notre métamorphose et notre remise en mouvement. C'est pour cela que nous sommes appelés, c'est ça, guérir. Dans le désordre interne de l'homme, de l'humanité, le Seigneur se révèle comme le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Le Seigneur utilise la croix comme instrument spirituel pour nous libérer de notre immobilisme humain, où règne une grande désillusion, même elle nous paraît bonne, y compris notre logique, et une grande aliénation. C'est une maladie dans laquelle toute l'humanité baigne. La croix brise, sépare, détache l'homme de la tyrannie de sa nature humaine afin de lui permettre d'accéder à la véritable vie. Toute la bonté divine réside dans cette œuvre miraculeuse, nous guérir, qui nous libère de nous-mêmes grâce au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Il nous libère de nous-mêmes avec nos qualités et nos défauts. Il nous libère de nos qualités et nos défauts, pas pour les faire disparaître, mais seulement au lieu d'être pour origine nous, elles aient origine Dieu. Il leur change de position. Pour qu'elles changent de position, il nous coupe de tout ça. Et après, il les ramène sous l'autorité du Seigneur. Changement de fondation, d'origine et de source. Tout ce qui vient de nous doit disparaître progressivement pour se mettre sous l'autorité de Dieu. Je termine. Comme l'avait déjà évoqué, les manifestations visibles, les guérisons miraculeuses. Et ça existe, il faut prier, c'est une réalité. Il ne faut surtout pas dire que ça existait il y a 2000 ans, ça n'existe plus. Ça existe hier, aujourd'hui et demain, et Dieu œuvre. Les manifestations visibles sont une information visible d'une réalité invisible que les capacités sensorielles incapables de percevoir. Cette réalité spirituelle s'exprime à travers un corps rétabli. Et quand un corps qui se rétablit, qui est guéri miraculeusement, ou une situation résolue, il faut voir en ça une information visible d'une réalité plus profonde. Les manifestations visibles sont le reflet d'une œuvre profonde et invisible, comme nous pouvons le discerner en lisant Luc, chapitre 5, verset 24. Or, afin que vous sachiez, et c'est très important le « afin que », oui, c'était « afin que », ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'origine. Il y a ça pour que vous compreniez, c'est-à-dire qu'il y a une réalité derrière. Or, Luc 5, 24. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Là, une réalité profonde, invisible. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Dois-je communiquer seulement sur le paralytique qui guérit? Alléluia, je cours partout, j'évangélise. Regardez, paralytique. Et j'oublie le afin que vous sachiez que le Fils de l'homme sur la terre a le pouvoir de pardonner les péchés. Donc le plus grand miracle, c'est pas le paralytique qui guérit, c'est le pardon des péchés. Et c'est cela qu'on doit témoigner. Et parce qu'il y a cette réalité-là, le Seigneur l'a rendu visible à nous par un miracle, le paralytique. Le Seigneur s'intéresse en priorité à l'être intérieur qui doit être remis en mouvement en se libérant de son être paralysé et boiteux. Il a besoin d'être guéri pour se remettre en marche selon la volonté de son Créateur, comme le paralytique, comme l'aveugle, et ainsi de suite. Et c'est le prochain message, on va évoquer le sens de ces miracles. Il n'y a pas des petits bobos. Ce sont des situations où il y a un message derrière. Quand l'aveugle naît, quand c'est le paralytique, la résurrection des morts, c'est un message spirituel qui se cache derrière. La manifestation visible à travers des miracles, et je termine, et des guérisons, n'est pas indispensable pour l'avancement du royaume. Je peux vivre ma vie chrétienne en restant paralytique. Parce que c'est le sens derrière. Mais le Seigneur peut nous faire grâce en guérisant le paralytique. Vous voyez le piège où il est? C'est que dans certaines églises, il n'est pas normal d'être chrétien en étant paralysé. Il n'est pas normal d'être malade. Il n'est pas normal de si. On crée ces règles. Ça, c'est pas biblique. Alors, dans ce cas-là, Moïse, Dieu lui a donné un défaut, Moïse. Il ne sait pas parler. Il lui a mis à côté de lui Aaron. Il l'a reconnu, Moïse. Merci Seigneur d'avoir mis Aaron à côté de moi. J'ai un problème. Certainement, il bégayait. Il y a un problème comme ça. Mais Dieu n'a pas dit, je vais te guérir. Non. Je vais utiliser cette situation pour te maintenir dans la difficulté, dans l'humilité. Comme ça, tu ne te sentiras pas supérieur aux autres. Et je te mettrai quelqu'un à ton service. L'apôtre Paul. Lui qui a guéri le Seigneur à travers l'apôtre Paul, il y a plein de guérisons miraculeuses. Et quand ça le concerne lui, sur quelque chose sur lui, le Seigneur, Dieu lui dit, mais non, je n'ai pas envie. Ma grâce te suffit, tu vas rester avec ce que tu as. Et bien, je l'ai accepté. Vous voyez, on peut créer des règles, mais des règles humaines. À travers cette épreuve que Dieu a voulu et a soutenue, l'apôtre Paul est maintenu dans une communion spirituelle qui lui rappelle son état d'être crucifié pour qu'à la place, le Seigneur règne en lui. Cette expérience quotidienne active a mené l'apôtre Paul à proclamer dans Galates 2:20 « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Eh ben voilà, moi je voudrais bien dire un jour ça. Le Seigneur, j'ai plein de problèmes de santé, Seigneur. Mais non, j'ai envie de te maintenir comme ça, parce que je suis en train de te briser, parce que j'ai envie de vivre en toi. Et d'un seul coup, je me réalise, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais comment? Justement, parce que j'ai permis. Parce que je peux te guérir tous les jours. Hein. T'es bien dans la société. Mais parce que je te maintiens par des épreuves, que ce soit sociale, familiale, physique, je te maintiens dans une difficulté telle que tu ne peux pas t'élever. Et c'est comme ça que je peux œuvrer à travers toi. Vous voyez, l'enseignement divin, ça nous dépasse. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire Christ en nous, une remise en mouvement. Voilà le mot, le verbe guérir, Rapha, que nous avons réduit seulement une guérison physique. Amen.